Vous écoutez
RMC. RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h02, c'est reparti pour la deuxième heure de Team Dugas avec Jean-Louis Tour, toujours là,
mon Jean-Louis.
Éric Dimeco est parti.
Oui.
Tant mieux, ça nous fera du repos et des vacances.
Ouais, mais on
merci
à amener d'autres personnes quand même.
Oui, mais bon. Ouais, mais ouais, qui sont
plus bienveillants.
Qui ont du caractère, mais qui sont moins fatigués, lui. Il faut qu'il retourne en confinement, le pauvre. C'est fou, ça. Nous accueillons en enfilade Julien Cazard, Daniel Riolo et Roland Courbis. Bonsoir, voilà. Messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut les amis.
Salut Roland.
Moi, le seul truc qui m'inquiète, c'est que plus j'écoute Team Dugas, plus je suis d'accord avec Dimeco. Alors, c'est pas forcément bon signe. Hein. Je pense que je suis fatigué.
J'allais embrayer Julien en disant je regrette de vous dire que ce que disait Eric tout à l'heure était proche de la réalité absolue.
Oui, alors après, c'était pas un débat de fond, notre réflexion à l'instant sur Eric. C'est juste qu'il était très agressif.
Non, mais j'ai entendu Christophe et nier l'importance de l'adversité quand tu fais de la compétition. Je suis content de l'apprendre parce que comme j'ai des tournois de tennis fin juin, je vais pouvoir continuer à m'entraîner avec mon fils, comme ça je serai prêt.
Ouais.
Je vais m'entraîner avec lui, parce que l'adversité n'est pas importante.
Ça dépend qui t'appelle mon fils. Hein.
Ouais.
Juste pour ceux qui n'ont pas suivi, le débat c'était à 18h, la Ligue 1
Si l'adversité n'est pas importante,
je rappelle le débat. La Ligue 1 affaiblit-elle le PSG?
On n'a jamais dit que ce n'était pas important, Daniel. On a dit que ce n'était pas, qu'à mon avis, ce n'était pas le plus important et que c'était une excuse facile.
Que ce n'était pas rédhibitoire, que ça n'empêchait pas de gagner.
Exactement.
Mais je crois qu'Eric a précisé que c'était un élément, et je dis la même chose depuis des années.
Ouais.
C'est un élément, et je
pense
qu'il
est de plus en plus... commence toujours comme ça, et puis après il te saute à la gorge, et il arrive, l'auditeur il saute à la gorge aussi. Et
c'est un élément de plus en plus important. Mais l'adversité, c'est.
Pourquoi c'est de plus en plus important?
Mais
c'est
parce que la compétitivité d'un championnat, c'est.
Et il y a 4 ans, c'était pas le cas.
Oui, bien sûr.
Ouais. Bah, le problème, c'est que la Ligue 1 s'affaisse d'année en année. Vous êtes au courant, vous suivez l'actualité. Les joueurs qui ont 18 ans,
ça fait 10 ans qu'elle est nulle.
Le niveau ne fait que baisser d'année après année, puisqu'il y a de plus en plus de joueurs qui partent. On en est à faire jouer des mecs qui n'auraient même pas eu le niveau Ligue 2 il y a 20 ans en Ligue 1. Ouais.
C'est vrai que quand j'ai regardé le match retour du Barça, regardé le match contre Manchester, que j'ai regardé Lo Celso en 6, c'est vrai que tout ça c'était la cause de l'élimination.
Ouais, de la Ligue. Hein. Mais c'est fou, Toulouse et Amiens, c'est leur faute. Tout est leur faute.
Mais pour toi, coach, c'est les entraîneurs aussi qui ont leur part de responsabilité.
Ouais, bien sûr.
Évidemment, dans ce qu'on a vu, il y a l'arbitrage dans les matchs retour, mais c'est, je dirais, une habitude. Quand on est le Barça, on sait très bien que dans un match retour on va être avantagé. On le voit depuis des années. Mais quand je regarde les éliminations de Paris Saint-Germain, sincèrement, je pense que
c'est pas la faute au rythme, c'est la faute à l'arbitrage, à l'entraîneur.
De notre Ligue 1, on peut le mettre après beaucoup de choses.
Je suis d'accord.
Voilà, ben vous n'êtes pas d'accord avec Daniel et Eric.
Non, je dis ça dépend du classement qu'ils font, de l'ordre de l'importance. Mais dire que ça n'a pas d'importance, c'est impossible parce que
ça tombe très bien parce que personne n'a dit ça.
Sinon, ça veut dire que la compétitivité n'est pas importante. Et un championnat, la compétitivité, c'est ce qui fait aussi que nos résultats en Coupe d'Europe sont catastrophiques depuis plus de 20 ans maintenant. Hein, il suffit de regarder les chiffres.
Mais ça, personne n'a dit que la Ligue 1 était un championnat relevé non plus.
Ça a une incidence.
Il y en a qui disent que ça fait partie des 5 plus gros.
Oui.
Le problème, c'est qu'on s'est inventé un classement à 5 pour pouvoir se mettre dedans.
Ouais, c'est ça.
Oui, ah bah nous, si on était 6e, on dirait qu'on est dans le top 6. Ouais, des meilleurs.
Exactement.
On est dans le top 6 des meilleurs.
Oui, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette position au top 5, ça encore, ce sont les chiffres qui le disent. Cette position, elle n'est due aux victoires du PSG dans les matchs de poule de Ligue des Champions et au peu qu'elle fait en Ligue des Champions. Si tu enlèves le PSG, déjà tu redégringoles à la 6e place. Si tu enlèves Lyon, bon alors là t'es carrément dans les oubliettes absolues.
Ah bah oui, mais si tu comptes que sur Amiens et Toulouse, effectivement que t'es derrière l'Albanie.
Non, mais il n'y a pas que deux équipes qui font les points en Coupe d'Europe. Ton indice UEFA ne tient qu'à la présence, qu'à ce que fait le PSG, et dans un second temps.
Oh, l'OM, respecte l'OM qui a été en finale de Coupe d'Europe.
Si t'enlèves le Bayern et Dortmund en Allemagne, je ne sais pas ce qui reste non plus.
Eh ben, fais les comptes des points, regarde les classements UEFA, c'est tout con à faire. Hein.
D'accord,
je vais faire. Faites des calculs. Ce que l'OM, ils ont fait finale il y a deux ans, c'est très bien, mais l'OM aujourd'hui, regardez leur position au classement UEFA et l'indice, vous verrez que.
Bah,
que
non, ça me fait trop peine.
Mais tu sais que je trouve ça assez exceptionnel, Daniel. C'est-à-dire que t'as été le premier à être dur avec le Paris Saint-Germain parce qu'ils le méritaient quand ils se sont fait éliminer.
Mais bien sûr, je le suis.
Non, mais là, de sortir des excuses comme ça à Verratti, à Thiago Silva.
Mais si,
même à Pastore, tu rencontres Pastore, le mec il a fait deux matchs en 5 ans et il te sort
rien,
ça comme
excuse.
Ne mets pas ça devant, c'est trop facile, Daniel. Ne leur mets pas ça au visage, ils vont s'en servir, c'est trop facile. Surtout ne fais pas cette erreur de donner cette arme aux joueurs.
Alors Christophe, le problème c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, c'est que les joueurs sont justement dans la négation. Alors là, justement, je ne vais pas du tout dans leur sens. D'abord, je ne leur ai jamais rien excusé, et tu le sais. Mais alors, détrompe-toi, parce que les joueurs, eux, sont dans la négation de cet élément-là. Si tu parles, justement,
d'ailleurs, toutes les
interviews, eux nient, parce que si tu dévalues la valeur du championnat, c'est comme si tu dévaluais leur titre. Et eux, ils sont tellement dans leur
quotidien. Les joueurs et Tourelle est là-dedans aussi.
Absolument. Mmh. Eux, ils ne veulent pas entendre parler, justement, de cet argument. Donc,
ils partent tous, c'est ce qu'ils font. Ils bravent, ils ont tous fait ça.
C'est bien leur faux curie, c'est bien l'hypocrisie générale, Christophe, qu'il faut dénoncer. C'est que quand ils s'en vont, ils disent la Ligue 1 c'était de la merde, mais quand ils y sont, pour ne pas dévaluer leur titre, disent c'est formidable machin. Il faut entendre tous les discours, c'est beaucoup plus nuancé. Et moi, justement, je ne le fais pas comme une excuse et je le mets pas en numéro 1 du classement. Évidemment que quand tu regardes les matchs, je suis pas con, Roland. Quand tu parles Barça, Manchester, c'est pas l'élément numéro 1. Bien sûr que non, c'est pas l'élément numéro 1. Loin de là. Mais il faut tout expliquer. Il faut donner un panorama complet de notre football pour tout comprendre de nos défaillances.
Au moins Neymar, il a une qualité, il dit que c'est de la merde depuis le début et à tout le monde. Tu vois, moi je respecte ça, c'est un mec qui est honnête.
Alors, il faut tout analyser.
On va en rester là sur le débat.
Quand Tanguy Kouassi, il dit que c'est de la merde, il s'en va.
Ah non, alors Tanguy Kouassi, vous voulez la stabilité.
Ah ouais,
c'est pas pareil. Il reste en Ligue 1 parce qu'il va aller à Rennes. Il reste en Ligue 1.
Ah non, il va au Bayern. C'est l'info qu'on a sortie il y a une heure là, avec Loïc Tanzi. Il va au Bayern.
Bah, voilà.
Titulaire. Il est plus sûr d'être titulaire au Bayern.
Donc il va au Bayern parce qu'il reprochait au PSG.
Oui, la stabilité.
L'éventuel temps de jeu et tout.
Non, c'est pas le temps de jeu, Daniel, c'est la stabilité. Les infos de Loïc Tanzi.
Parce que Loïc m'avait dit il y a deux jours que dans les arguments, c'était pas la stabilité, venait après le temps de jeu et après le projet. Enfin bon, bref.
Ah bah hier, il nous a expliqué.
Il m'a dit le climat comptait aussi. Le climat important.
Et la nourriture.
Un trop instable, le climat. Un coup, il fait pas beau. Un coup, il fait beau. Moi, au Bayern, il fait pas beau.
C'est ça.
C'est stable.
Alors. Non, mais tu vois, pour résumer, si par exemple, on donne le niveau du championnat français en cinquième position, ok. Mais de la façon dont a été éliminé le Paris Saint-Germain 3-4 fois, je pense qu'il faut chercher autre chose que cette explication.
Ah, évidemment, il y en a tellement d'autres, on en a parlé mille fois, Roland, on est d'accord, évidemment. Évidemment qu'il y a
un élément,
il y a tout ça, bien sûr.
Il y a un élément qui s'en va.
Le match retour, je pense que l'exemple numéro 1 pour moi, par contre, c'est Manchester. Là, sincèrement, surtout ne parlons pas du niveau de notre championnat. Quand tu gagnes 2-0 en faisant un super match à l'extérieur et que tu perds chez toi contre l'équipe B de Manchester.
Non, on est d'accord là-dessus, mais sur d'autres matchs, attention Roland, quand tu n'es pas habitué, quand tu ne défends jamais, quand tu n'es jamais réellement bousculé, même quand tu as pris un avantage dans un match aller, dans le match retour, si tu es un peu bousculé, si tu es confronté à des situations que tu n'affrontes jamais, à savoir le stress, la pression, l'équipe en face de toi qui a vraiiment envie de te marcher dessus, tu sais plus comment faire.
Le PSG, ce qu'on a dit, c'est des internationaux, Daniel. Ils jouent des matchs de Ligue 2.
Il les joue pas, Christophe, les matchs dont tu parles.
Non, mais tu peux pas dire ça, Daniel.
Cite-moi les joueurs qui les jouent.
Tu peux pas dire ça. Ils sont pas habitués au stress. Tu entends ce que tu dis, Daniel? Ils sont pas habitués au stress. Ils sont pas habitués à ça. Ils sont pas habitués à ça. Daniel,
cite-moi les mecs. Christophe, Daniel, cite-moi les mecs. Tu veux qu'on fasse l'équipe dans l'ordre? Est-ce que tu veux qu'on fasse l'équipe dans l'ordre? Est-ce que Thiago Silva?
Non, on n'est pas d'accord, Daniel. On sera trouvé
le championnat. Mais c'est pas qu'on n'est pas d'accord.
S'il vous plaît, pas tout en même temps.
Daniel, le championnat que tu connais très très bien. En Italie, tu, pense que la Juve, sauf les dernières années, qui se balade comme le Paris Saint-Germain se balade, il y a un problème pour eux de niveau.
Oui, on peut citer le Bayern italien aussi. Hein, qui a,
enfin, quand ils jouent Naples, quand ils jouent la Lazio, il n'y a pas d'équivalent chez nous, hein, je crois.
Ouais, il n'y a pas d'équivalent, Roland. Déjà, ça, c'est la première.
Mais quand ils les ont eu, ils ont perdu. C'était Monaco, c'était Montpellier. Ils n'ont pas gagné.
Déjà, il y a des équipes en Italie qui sont supérieures à ce qu'on a en Ligue 1. Et ensuite, je te signale qu'en Italie, ça a effectivement été un sujet, Roland, puisque tu dis que je connais ce championnat, et que la Juve, oui, ça a été abordé, le fait que la compétitivité de la Serie A était également en baisse, parce qu'elle est en baisse sur ces dernières années, et qu'ils se baladaient trop facilement. Ouais.
Ouais, mais bon, ils vont en finale, ils vont en demi-finale.
Oui, mais le football en Italie, c'est pas le même. Les équipes sur le terrain, elles jouent pas comme en Ligue 1. Elles jouent pas toutes derrière, recroquevillées à t'attendre. Non, c'est ouais. Et le niveau des joueurs, il a rien à voir non plus. Après, moi, je veux bien qu'on n'ouvre pas les yeux sur notre niveau, mais après, les chiffres sont là et le montrent, hein, quand même. Hein. Et au moins les chiffres, ça se discute pas trop, quoi.
On le fait le constat sur le niveau, Daniel. On le fait le constat, on le partage. Mais je trouve qu'on brandit trop facilement ce truc du défaut de la Ligue 1. Bon, c'est pas un avantage, ça c'est certain. On est tous d'accord que ça serait un peu mieux de temps en temps de une petite piqûre de rappel, voilà, sur les joueurs. Mais après, est-ce que le coach est pas capable de le faire? Est-ce que un coach mental est pas capable de le faire? Est-ce que une préparation différente?
Christophe, c'est quoi les plus belles années de notre football au niveau des clubs?
Oui, je m'en fiche.
Bonne période dans l'histoire. Bah, pourquoi tu t'en fiches?
Parce que je m'en fiche de ça. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, voilà, le Paris Saint-Germain, ils ont des joueurs de top niveau mondial. Ils sont pas capables de se bouger un petit peu le cul quand c'est des matchs importants. Et après, quand ils partent,
pas ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais je veux pas. Je n'écarte aucun dossier. Mais
ils ont des mecs qui ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont des mecs qui ont gagné la Coupe du Monde. Bon,
mais ils ont qui? Mais ils ont un mec qui a gagné la Ligue des Champions. Ils ont Di Maria.
Et
Neymar qui vient d'arriver.
Navas, il a gagné la Ligue. Il a gagné la Ligue.
Navas, il vient d'arriver.
Qu'est-ce que tu l'emmerdes à Navas? Alors, c'est très bien. Alors, qu'on leur cherche pas d'excuses, c'est bon.
Mais ils ont pas ils gagné passé, avec Barcelone, Neymar. Du gars, c'est pourquoi tu crois que. Non, mais. Tu t'énerves alors qu'ils sont en carte. Mais Navas, il n'y a rien à voir, il est qualifié.
Oui, mais moi je dis que ça ne peut pas être un hasard que la seule décennie oui, où nos clubs, ont présenté un beau visage en Coupe d'Europe, c'est la décennie où notre championnat était le plus relevé, où il y avait des équipes et un championnat de qualité. Je dis que ça ne peut pas être un hasard.
Vu les éliminations du Paris Saint-Germain ces dernières années, sincèrement, dire que c'est une raison importante, je trouve ça assez incroyable.
Voilà, tu veux la raison, mais tu peux pas nier que c'est une raison importante.
Et moi, je
le
dis un jour
dans lequel sont enfermés les Silva, Verratti, tous ces barons que tu dénonces d'ailleurs. On est d'accord là-dessus. Les baronniers et le confort.
Oui, mais Daniel, tu devrais pouvoir sortir du confort sans parler du niveau de la Ligue 1.
Je réfléchis en même temps, ça m'arrive. Ouais. Liverpool, qui a 25 points d'avance sur le second, eux, ça ne leur pose aucun problème de jouer
ces matchs-là. Ils sont éliminés cette année, je te rappelle. Hein.
Oui, ils sont fait sortir.
Voilà. Enfin, 25 points d'avance. Ah oui, mais rigole pas. Ils ont 25 points d'avance, ils sont éliminés.
Mais justement, c'était pas un piège, mais je vous attendais. C'est parce que c'est le niveau de la Ligue 1.
Parce que tu t'endors au bout d'un moment. Tu t'endors.
Ah, alors les pauvres.
T'as pris un exemple.
Il faut mettre dans ses clubs, il faut mettre Pascal le grand frère. Il va leur mettre des tartes dans la gueule tous les matins, ça va les réveiller. Il est pas assez payé, d'accord.
Bon, okay. Là-dessus, alors là, en revanche, sur ce point, je suis d'accord avec toi.
Mais c'est Daniel, peut-être.
Qu'on ait besoin, Christophe, de parler de motivation ou, comme tu dis, de tartes dans la gueule ou de coups de pied dans le cul. Ça, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, je trouve ça lamentable. Mais le confort, mais toi, le premier, combien de fois on a parlé du confort dans lequel les mecs du PSG étaient endormi à cause des dirigeants qui les remuaient pas assez, de la République des joueurs et du fait qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ça rejoint, mais tout se rejoint en fait. Tout se rejoint parce que le confort dans lequel le président les installe avec ses énormes salaires, ce confort-là, après le dimanche, tu n'en sors même pas parce qu'en plus tout le monde te regarde avec des yeux écarquillés. Les mecs, ils viennent te demander des maillots à la mi-temps. C'est comme un tout. Après, mets l'ordre que tu veux, mais c'est un tout très intéressant à analyser.
Et Dugas, le problème, c'est pas Pascal le grand frère, c'est qu'ils avaient gardé trop longtemps Silva la petite sœur. C'est peut-être ça le problème. Fallait virer la petite sœur, surtout.
Bon, ben je te souhaite que l'année prochaine, il gagne la Ligue des Champions.
L'année prochaine, et cette année.
Au mois d'août.
Oui, non, mais Thiago Silva va jouer.
Thiago Silva, il est plus titulaire et on est passé à cause de ça.
Non, mais et puis ça vaudra rien, cette Ligue des Champions, il n'y a pas d'aller-retour.
Et t'es
sérieux? On finit premier devant le Real Madrid, au gros.
Oui, mais
on bat Dortmund. Oui. Il y a des gens, ils étaient champions d'Europe en battant avec Glendoran, et ça match nul contre Glasgow, frère. Et sérieux ou quoi?
Oui, mais non.
Et ça compte pas, nous.
Non, mais on le fera plus tard, ce débat.
Quel salaud, t'es moi un enfant.
Faudrait déjà que Paris gagne pour faire ce débat.
Et laisse-moi rêver. Oh. Je prends l'accent, moi, je sais pas.
T'as été dans une phase.
Pas bien du tout.
Alors, et si on se faisait un petit France-Allemagne 82? Polo Breitner nous rejoint, notre spécialiste du foot allemand. Salut Polo.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir tout le monde.
Salut Polo, bienvenue.
Bon, je te fais pas réagir à notre débat, c'est pas que j'en ai pas envie, mais j'ai un peu
non, par contre, il y a un super match en ce moment important pour Mönchengladbach qui mène 2-0 face à Wolfsburg. Paradoxalement, c'est Wolfsburg qui a les plus grandes occasions. Et Mönchengladbach fait la bonne opération pour l'instant et met la pression sur les Leverkusen.
Sans Pléa ni Thuram.
Sans Pléa ni Thuram, Ben Sebaini, oui, c'est surprenant. Et sans Ben Sebaini suspendu. Donc, c'est vraiment intéressant.
Alors, France-Allemagne 82. Nous allons donc tout de suite faire un saut dans le temps. Le 8 juillet 1982, deuxième demi-finale de la Coupe du Monde en Espagne. Donc, tout le monde a évidemment cette rencontre en tête. Moi, j'ai une première question pour ceux qui étaient nés à l'époque et qui ont suivi ça avec attention. Donc, Daniel.
Nous tous, sauf toi, en fait.
Je sais pas. Oui.
T'étais pas né, Jean-Louis, sans déconner?
Non, j'étais pas né, non.
Merde.
Ouais, oh, désolé.
C'est fou.
Non, mais alors, la question est... Est-ce qu'à l'époque...
T'as tout raté.
Donc toi, tu détestes pas les Allemands. Tu fais partie de ta génération.
J'adore les Allemands, moi.
Ah ouais, d'accord.
Ma femme est franco-allemande.
Mon Dieu. Coluche avait raison.
Oui, sur quoi?
Il disait, regarde, même les Allemands, ils veulent plus faire la guerre. T'as qu'à le voir quelle merde on est.
Bon, moi j'ai une question. Est-ce que... parce que j'ai regardé un peu le parcours, évidemment. Et on se rend compte quand même que la France a un parcours de rêve jusqu'à cette demi-finale. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc il y a deux phases de poule. La première...
Ça ressemble à nos parcours depuis une dizaine d'années.
Exactement. Et je voulais savoir si ça, on en parlait à l'époque. Parce que donc, il y a première phase de poule où on termine deuxième derrière l'Angleterre. La seule victoire, c'est contre le Koweït. Deuxième phase de poule, on tombe dans un groupe avec l'Autriche et l'Irlande du Nord, alors que l'Italie tombe avec le Brésil et l'Argentine. Et l'Allemagne avec l'Angleterre et l'Espagne. Donc c'est quand même autre chose.
Rappelons que Deschamps n'est pas le sélectionneur.
La question c'est est-ce que j'ai une réflexion de jeune con ou est-ce que c'est
non,
vrai?
C'est vrai.
Voilà.
Alors déjà
mais non, mais dans nos discussions. Pardon, vas-y.
Vas-y, Daniel.
Non, j'ai déjà dire qu'on parlait ou on parlait pas. On est dans une époque où on ne parle pas de foot.
Oui, c'est vrai.
Personne ne parle de foot. Tu vois le match à la télé, il est commenté, ça se termine. Au revoir tout le monde. Il y a pas de commentaire, il y a pas d'analyse, voilà. Donc le parcours, le groupe de base, il est difficile parce que t'as l'Angleterre et la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie à l'époque, la France gagne pas à tous les coups contre ce genre de pays-là.
On fait match nul.
Le Koweït, effectivement, c'est l'équipe facile du groupe. Et d'ailleurs, la France, au départ, on se dit pas forcément qu'elle sort du groupe, elle se prend une tôle contre l'Angleterre. Hidalgo change tout pour le match suivant et contre la Tchécoslovaquie, ça fait un partout avec Amoros qui sauve sur sa ligne un deuxième but tchèque qui nous aurait éliminé dès le premier tour. La deuxième petite poule de trois, effectivement, là, c'est un bon tirage parce que de l'autre côté, t'as eu des équipes qui ont pas, tu sais, comme souvent, répondu aux attentes et tout. Et oui, le groupe de l'Italie, Brésil, Argentine, c'est plus compliqué.
Parce qu'on aurait dû avoir l'Italie, normalement.
Avec Allemagne, Angleterre, je crois que c'est Allemagne, Angleterre, Espagne. Allemagne, Angleterre, c'est plus compliqué. T'as le groupe avec URSS de mémoire, Pologne, Belgique, je crois, c'est pareil. Et nous, on est avec Irlande du Nord et avec Autriche. Effectivement, là à ce moment-là, t'es plutôt verni en ayant fait deuxième de ta poule.
Donc t'arrives dans ce match-là sans énorme référence, hein, vu les équipes que t'as battues. Mais bon, c'est quand même une demi-finale de Coupe du Monde. Je vous redonne la compo, même si je sais que vous l'avez tous en tête.
Oh, ça c'est par cœur, ça. Ouais.
Jean-Luc Théodori dans les buts.
Jean-Louis, est-ce que
oui, coach, bien sûr.
On est obligé d'insister sur ce qui se passe d'entrée, puisque je m'en rappelle dans les commentaires et ça m'a permis moi aussi dans l'analyse de voir que finalement une préparation d'un tournoi aussi important qu'un championnat d'Europe et qu'une Coupe du Monde. Bah écoute, oui, c'est sûr que c'est important, traditionnel, match amicaux, d'accord. Mais quand on voit que l'équipe de France se prépare, quand on se prend une droite dans la gueule contre les Anglais, c'était à Bilbao. Dans ce match-là, on n'est même pas mauvais, on est ridicule. Et qu'on change 4 ou 5 postes qui sont les postes les plus importants de notre équipe, avec des inventions. Jean Vion qui joue stopper, n'en a jamais joué de sa vie. Là, ça me fait, moi, regarder en tant que passionné, en disant, putain, on va quand même pas faire une bonne Coupe du Monde avec ce qui vient de se passer. Eh bien oui, tu vas presque au bout. C'est quelque chose. Et ce fameux carré magique, avec toute l'affection et la sympathie que j'ai pour Hidalgo, ben il n'y est pas au départ, le carré magique. Il se construit tout seul.
Effectivement, oui. C'est vrai qu'il y a tous ces changements.
Hidalgo qui le met, ok, c'est sûr.
C'est vrai qu'il y a tous ces changements avec le match de l'Angleterre, le premier match. Alors, contre l'Allemagne.
Excuse-moi, mais le carré magique, avant que tu le vois chez Deschamps, il peut se construire tout seul. Il peut y aller longtemps.
Hein. Ah, il y a un carré magique.
Alors là, tout seul, déjà, ils ne sont pas là déjà. Ils ne sont même pas dans le groupe, les mecs.
Non, Deschamps, le carré magique, c'est juste déplacé en défense. Ouais, voilà. Quatre défenseurs
sont magiques. Ils sont carrés, ils sont magiques.
Alors. J'avais même opposé cette formule. Deschamps, lui, il construit toujours un carré solide. C'est les deux défenseurs centraux et les deux qui sont devant.
Ah oui, avec Mbia et Diarra, là, à l'époque
à l'OM, et même en équipe de France, tout le temps, lui, ce qui lui importe, c'est un carré solide.
Ouais.
C'est de plus en plus un octogone. Hein.
Oui, moi j'allais dire un hexagone avec les latéraux, mais t'as raison.
C'est un octogone avec deux mecs qui se démerdent devant.
Alors, l'équipe de France, la compo. Donc, Jean-Luc Ettori dans les buts. Une défense amoureuse, Bossis, Janvion, Trésor. Et c'est vrai, par rapport au match de l'Angleterre, Christian Lopez était.
Trésor dans
titulaire.
L'axe. Hein, parce que, comme tu l'as annoncé, on a l'impression qu'il était latéral.
Trésor, Janvion dans l'axe, Bossis, amoureux sur les côtés. C'est ça?
Ouais.
Donc, le carré magique, première génération, avant que Luis Fernandez n'arrive dedans. C'est donc Gengini, Platini, Gires, Tigana. Contre l'Angleterre, toujours pour faire plaisir à coach, il y avait René Girard titulaire, Jean-François Larios également. Ouais. En attaque donc contre l'Allemagne,
Gérard Soler aussi.
Et Gérard Soler, voilà. Parce que c'était Rocheteau et Six contre l'Allemagne, et Soler était titulaire avec Rocheteau contre l'Angleterre. Donc effectivement, il y a des changements. Bon, en même temps, ça fait partie aussi de l'histoire de beaucoup d'équipes de France. Et l'équipe qui se construit au fur et à mesure de la compétition, voilà.
Sauf que là, on n'avait pas. Le truc, c'est que là, il y avait zéro expérience. Parce que la Coupe du Monde 78, tu étais allé un peu en mode découverte, et puis tu tombes dans un groupe tellement compliqué avec l'Argentine et l'Italie, tu sais que tu vas jamais sortir. La Coupe du Monde 82, tu arrives sans référence, t'as pas fait l'Euro 80. Toi, c'est pas comme bien aujourd'hui, sûr, ouais. Où toi tu dis oui, mais on a l'habitude de transformer en cours de route. On avait l'habitude de rien du tout. On était là, on se disait mais où ils vont, comme a dit Roland après le premier match. Je dis bon, c'est fini, on va rentrer à la maison, quoi.
Oui, bien sûr. Alors on va arriver sur le match, mais ce que je vous propose, on fait la pause maintenant et on fait le match dans un instant avec en plus Polo. Oui.
Je peux te demander, tu peux dire RFA parce qu'à l'époque c'est la RFA et ça compte.
Oui, c'est vrai.
C'est toujours RFA. La RFA.
Toujours aujourd'hui. Oui, c'est toujours la RDA. Je crois que c'était toujours la RDA quand je te regarde, moi.
Allez, toujours une République fédérale.
A tout de suite pour France RFA.
RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Les amis, 19h29, Tim Dugas continue avec Roland Courbis, avec Julien Cazard, avec Daniel Riolo, avec Paulo Breitner, avec Jean-Louis Tour, que du beau monde. Bon, aujourd'hui, on continue de parler de ce fameux match France-Allemagne de 82.
Exactement. T'étais où, Dugas, à l'époque?
J'avais 10 ans, j'étais chez mon grand-père pour voir la finale. 10 ans, mes premières pleurs, effondrées.
Ah ouais, comme nous tous.
Ouais, comme une fillette, ouais, tout, ouais, c'était compliqué.
Alors, je précise que tout le monde a le droit de pleurer, même les garçons du gars.
C'est pas attends, sauf que moi, j'ai jamais vu une fille pleurer autant que moi ce jour-là.
Ouais, mais là, voilà, je pleurais vraiment.
Vous pleuriez beaucoup à chaud de larmes, très bien.
Voilà,
pas de problème.
Oui, c'est vrai, il faut faire attention à ce qu'on dit là.
Hashtag.
On ne sait jamais. Ouais. Voilà. Donc, chacun se souvient d'où il était, j'imagine.
Ah, bah oui.
Et Polo, t'étais où, toi?
J'étais au Lavandou, on n'avait pas la télé, j'avais demandé à la reine-mère si je pouvais aller au troquet du coin pour aller voir le match. Et j'étais à la même place en 1982 et en 1986, et je n'y suis plus jamais retourné.
Est-ce que tu étais heureux comme jeune communiante ou pas?
Ah non, à l'époque j'étais à fond derrière l'équipe de France. Je pense que quelqu'un qui a vécu France-Allemagne 82, il n'y a pas plus beau, parce que c'est pas qu'une question de football, et que tout ce qui est arrivé après, pour moi, c'est de la rigolade en fait. C'est-à-dire les titres mondiaux de la France de 98 et 2018, par exemple, pour moi ne m'intéressent plus du tout. 82, pour moi, c'est un summum de l'équipe de France. En tout cas, c'est une image de la France pour moi. Donc le reste derrière, la France qui gagne, ça m'intéresse plus.
Ah, très bien.
Par contre, t'expliqueras aux Allemands ce genre de mentalité.
C'est justement le
gars, tu n'intéresses pas Polo. C'est ça que je retiens, moi. Ouais,
voilà. C'est la grande leçon.
C'est-à-dire que t'as aimé la France en 39, en 45, bof.
Mais non, c'est.
Bon, alors, on y va donc pour le match. Bon, alors, évidemment, vous avez en tête tout ce qui s'est passé, mais quand même, on va se remémorer tout ça. L'équipe de France qui débute pas bien la rencontre, Lidbarski qui va ouvrir la marque. Ah, j'ai pas donné la compo allemande. Polo, peut-être que tu peux.
Alors, deux têtes, Schumacher dans
les yeux. Je l'ai sous les yeux, mais.
Côté droit, Manfred Kals, évidemment, les frères Förster, Briegel, décathlonien. Milieu de terrain, Dremler, et il m'en manque un comme d'habitude, Stilicu, excusez-moi. Ouais. Et puis le milieu de terrain
offensif, c'est Stilicu est en charnière centrale.
Il est en charnière centrale, excuse-moi.
Stilicu, ouais.
Et comment s'appelle, il y a Breitner qui est meneur de jeu, ce qui est quand même très paradoxal, oui. Alors que c'est un arrière de formation. Et les trois de devant, Magat, Lidbarski et Klaus Fischer, parce que Rummenigge est blessé.
Félix Magat, ça c'était un joueur.
Exactement, ouais.
Et d'ailleurs, on voit le côté très très défensif des Allemands.
Ah oui, ça c'est très défensif. Rummenigge remplaçant, mais déjà, c'est balèze.
À l'image de Breitner. Non, Rummenigge, il est blessé. D'ailleurs, quand il rentre, il est quand même décisif, tout en étant blessé.
Ah oui.
Exactement.
Il est décisif et il remet son short.
Ouais.
Et il y venait, les gars. Calme,
l'image de Rummenigge qui marque et qui remet son short, elle restera pour moi dans ma tête.
Moi, Daniel, c'est marrant parce que c'est l'image où lui, il est calme, il s'énerve pas, il marque et il dit, avec le geste de la main, il fait venez les gars. Allez, il y en a un autre à mettre.
C'est ça.
T'as l'impression de voir Jordan.
Vous
êtes allé un petit peu vite quand même. Avant que Rummenigge marque en prolongation, il s'est passé 2-3 trucs avant.
Ah oui,
donc, Lidbarski ouvre le score à la 17e minute dans cette rencontre.
Il fait tourner sa gourmette là, après avoir marqué. Ça m'a marqué.
Avec un Ettori pas génialissime. D'ailleurs, pendant un peu toute la Coupe du Monde.
Ettori. Il n'y avait pas une histoire d'ailleurs autour des Tori? Non.
De quoi?
Qu'il était nul, c'est une belle histoire quand même. Hein.
Non, mais pourquoi il s'est retrouvé titulaire? Non,
ah, mais parce qu'il y a eu la grosse embrouille avant la Coupe du Monde avec Baratelli et d'Hidalgo. Et après, parce que la légende. Mais alors, ça, Roland doit le savoir mieux que moi et on en a parlé mille fois ensemble. Mais il paraît que pendant la préparation, Ettori a été. Mais, d'abord, Ettori était un super gardien à Monaco, il faut le dire. C'était un très très bon gardien qui, en plus, était bon sur les pénaux. C'est dire si pendant la séance il a déçu, à jamais bougé.
Ah oui.
Mais en fait, il paraît qu'il a fait une préparation monstrueuse et qu'il s'est imposé comme titulaire.
D'accord.
Mais Daniel, sur les pénaux,
parce que sinon, Castaneda devait être le titulaire. Castaneda, Saint-Etienne, il était bon.
Il fait une préparation extraordinaire, mais il fait une saison extraordinaire parce que tu me
absolument,
demandes.
Absolument.
Où on était, on est en 82, on est champion. Avec le dernier match contre Strasbourg, le but de Barberis sur un centre de Bellone. Mais ce que fait Ettori pendant ce championnat, c'est tout simplement époustouflant. Et là, il arrive en troisième position, mais aux entraînements, il continue. Les matchs de préparation, pareil. Tu as l'impression que c'est très difficile de lui marquer un but.
Oui, alors que c'est pas du tout l'impression qu'il donne sur
ce match. Il fait le premier match contre l'Angleterre, il est aux fraises.
Ah ouais.
Il fait une Coupe du Monde très, très moyenne. Et d'ailleurs, après ce premier match, je crois que Hidalgo hésite de le maintenir ou pas, puisque ça fait déjà beaucoup de changements si en plus il change Ettori.
Absolument. Et Roland, et c'est vrai que tu as raison, ce premier match où la France est catastrophique, mais Ettori, mais je me souviens là pour le coup du peu de commentaires qu'il y avait, mais il avait fait peur, le but. Quoi. Roland, toi qui aimes bien les sorties de gardien sur le but de Robson, là, mais on dirait un gardien de poussin qui joue contre des pros. C'est incroyable.
Je me rappelle très bien de la presse de l'époque. Après l'Angleterre, la France disait on s'est pris notre raclée face à l'Angleterre, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que c'est la France de l'époque. On n'était rien.
C'est vrai.
Et en fait, la défaite contre l'Angleterre, elle était logique. Enfin, logique par rapport à notre histoire.
La défaite contre l'Angleterre, c'est le premier match. Hein. Et donc là, on est sur la demi-finale contre l'Allemagne. Donc Lidbarski ouvre le score, 17e. Platini sur pénalty égalise à la 27e.
Attention, sur ce péno, il faut dire, faute de Karl-Heinz Förster sur Dominique Rocheteau. À l'époque, les Allemands, et notamment Förster, prenaient toujours le 9 en marquage. Et les mecs qui ont pris le dessus sur Förster, il y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas des
mecs. Mais vraiment pas beaucoup. C'était un stopper, mais énormissime. Il y a Paolo Rossi qui mettra un but en finale. Mais avant ça, le 9 avec Förster, il voyait pas beaucoup le jour. Hein.
Ouais.
Et il a fait faute quand il ceinture Rocheteau. Il obtient le penalty qui est transformé par Platini. Ouais.
Platini, sur ce match-là, c'est le grand Platini ou on attendait un peu plus parfois?
Non, le bon Platini, mais pas le grand Platini.
Moi, j'ai pas.
Toujours à la manœuvre des actions. Il est bon sur cette Coupe du Monde. J'irais, c'est je pense un peu au-dessus.
Ouais.
D'ailleurs, je crois qu'il terminera même devant lui au classement du Ballon d'Or à la fin de l'année. J'irais, c'est très très bon. Mais Platini, oui, il est là quand même. Pour moi, c'était quand même le boss de l'équipe. Hein. C'était vraiment lui le patron.
Ah bah
quand même.
Oui. Ah bah ça va se voir sur les attitudes. Un
Tigana fait la grosse Coupe du Monde aussi.
Ouais. Mi-temps un partout, donc dans cette rencontre après l'égalisation de Platini. Et puis arrive donc l'épisode Schumacher. Même si juste avant il y a quand même déjà des prémices avec des contacts, parce que donc il y a l'arbitrage de Monsieur Korver, le Néerlandais, qui va être beaucoup remis en question, notamment par les commentateurs de l'époque. Hein. Parce qu'il y a quelques actions un peu litigieuses où en gros on sent que Harald Schumacher, le gardien de but, laisse traîner tout ce qui peut le laisser traîner
chaud,
à chaque
il chaud,
fois.
Il est bouillant, hein. Il est bouillant, Schumacher.
Ah, c'est pas avant le problème, enfin, le choc avec Batiston, il y a quand même deux trois comportements
ça,
où,
hein.
où tu vois qu'il faut pas le chatouiller.
Exactement. Et on le verra donc avec cette action pour Batiston. Batiston qui se retrouve donc en position d'avant-centre, en face à face.
Ouverture de Platini.
Exactement. Alors Batiston qui sera rentré à la place de Gengini à la 50e. Hein. Et donc Batiston qui se présente tout seul sur cette belle ouverture effectivement.
Il rate son grand pont. Hein. On peut dire qu'il rate son grand pont.
Disons que la prise d'appui est compliquée.
Il a fait un grand pont, là, les Didi, là.
Oui, parce que. Alors, si c'est un, je sais pas si c'est un grand pont, il veut tirer.
Non, il pousse le bal parce qu'il arrive le premier, puis il se fait déglinguer. Hein.
D'ailleurs, les Roland.
Tu crois pas qu'il veut tirer, toi enfin,
Non, il est en extension. Il est en extension. Il essaie d'avoir le premier la balle. Peut-être, tu vois, pour essayer d'aller, de continuer avec le ballon, mais il tire pas.
Et après, effectivement, il se fait découper par Schumacher.
Mais quand il se fait découper Schumacher, pour moi, il ne sait pas qu'il n'y a pas but. Il pense qu'il y a but. Et sur la lancée, il s'est laissé aller, mais avec la haine et la méchanceté de se dire bon, allez, il y a but parce qu'il est lobé. D'ailleurs,
il passe pas très loin.
Ouais. Et donc, sur la lancée, tu as remarqué, tiens.
Non, mais c'est dingue parce qu'en fait, ça, c'est la vision française. J'ai relu des livres, pour préparer mon intervention, de ce que disaient des journalistes de l'époque, etc. Et en fait, eux considèrent qu'il n'y a pas faute de Schumacher sur Batiston.
Pour moi, il ne le touche pas. Moi, j'ai vu une caméra qui montre qu'il ne le touche pas.
Moi, j'ai bloqué juste sur un truc. Quelqu'un a lu un livre avant de préparer une intervention en team du gars.
Tu es d'accord avec eux?
Ah, mais moi, je comprends par rapport au contexte de l'époque qu'il n'y ait pas rouge. En fait, ce qui choque en Allemagne, en fait, parce que quand même, il y a des choses qui sont passées.
Oui, à l'époque, il n'y avait jamais de carton rouge, de toute façon.
Rouge. En fait, il n'y a même pas faute, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas carton jaune. C'est ça qui choque, en fait, les journalistes de l'époque.
Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a même pas coup franc.
Et je le dis et je le redis à chaque fois, vous faites de l'émotion sur cet acte. A posteriori.
C'est vrai qu'à l'époque, on n'en avait pas, je reconnais.
Vous êtes tous en train de regarder le ballon qui passe sur le côté gauche des buts. Vous ne savez même pas qu'il y a contact entre Batiston. Et c'est a posteriori qu'une fois qu'on a les ralentis, que vous voyez les choses.
Mais a posteriori, on voit que Zidane met un coup de boule, c'est pareil.
Je ne vois pas où tu veux en venir, Polo.
J'en veux que les gens, en fait, se trouvent des excuses par rapport à ce qui s'est passé a posteriori et pas sur l'instant.
Mais pourtant,
il est complètement KO, il sort sur civière. Enfin, tout le monde se rend compte de la portée.
Il avale sa langue, il lui pète dedans.
Oui. j'avais le sang glacé, j'avais 8-7 ans, c'est une des horreurs que j'ai. Moi, quand mon grand-père me disait, il y a un méchant moustachu allemand depuis Polo, 30 ans, je crois que c'était lui, moi.
Attends,
si j'essaie de te suivre. Moi je veux bien que.
Déjà, c'est le contexte de l'époque.
Attends, juste,
déjà,
moi non, je veux bien
faut,
te suivre.
Oui, mais attends,
oui, mais tu dis quelque chose. Soit on peut répondre, soit tu vois. Je veux bien te suivre.
Ne parle pas de nous, sinon.
Si vous me demandez d'intervenir pour confirmer ce que la vision française.
Non, mais tu dis des choses sur la vision française. Tu nous mets en cause en disant, vous voyez le truc seulement a posteriori en vous cherchant des excuses.
C'est pas vrai.
On peut répondre à ça quand même.
Mais non.
C'est exactement ça.
Non, mais quelle limite. On sortent toutes les petites interventions de Schumacher où il est limite sur le match en disant bon là il exagère, etc. Ça c'est peut-être des excuses si tu veux,
mais
cette action prise indépendamment, comment tu peux dire que c'est une excuse?
Prenez les contextes des matchs de l'époque, prenez Maradona qui se fait assassiner à chaque match. Vous dites pas à chaque match, il y aurait dû y avoir rouge sur telle ou telle personne.
Mais bien sûr que si. Bah,
vous faites de l'anachronisme historique.
Mais non.
Vous faites de l'anachronisme historique. C'est-à-dire que vous êtes en 2020.
Argentine-Cameroun, on n'arrête pas de dire c'est un scandale.
Mais attends, la Polo.
Je pensais pas que tu nous détestais autant.
Non mais attends, Polo, ce que tu veux nous dire, Polo, c'est que c'est aujourd'hui seulement qu'on parle de cet attentat et qu'à l'époque, on n'en parlait pas. C'est ça que tu nous dis?
Non,
parce que dans le contexte de l'époque,
il faut rappeler le contexte de l'époque.
Oui, traduit, Daniel.
Il faut rappeler le contexte de l'époque.
effectivement, là, le point, je pense, où Paulo veut insister, c'est que sur le coup, évidemment, on se dit c'est aberrant ce qu'il fait, il y a faute et tout, mais c'est plus que dit Roland. C'est, moi, je me souviens, hein, c'est, ben, il y a quand même coup franc. Mais rouge à l'époque, ça n'existe pas.
Non, c'est vrai, on n'y pense pas.
Même Julien, quand tu dis le Argentine-Cameroun, si tu te remets, on était quand même plus âgés déjà en 90. Bon, moi, c'est quand on le revoit maintenant qu'on se dit putain, c'est ouf. Ce
qu'ils font, ça m'avait marqué, sur
Maradona
et Kadija. Ça m'avait marqué. Hein.
Oui, c'était marquant, mais à l'époque, c'était un peu commun de ce genre de truc sur les terrains. Quand des mecs se mettaient en tête de dessouder, et en plus des exemples dans les années 80, il y en a plein. Rappelle-toi, mais... Christophe a dû vivre ça, gamin à Bordeaux. Mais le match où Tigana se fait péter dans le Bordeaux PSV de 88 là, avec Van Tijlen, je crois, je sais plus le Néerlandais qui lui démonte.
Il avait un contrat d'ailleurs.
Il avait un contrat et tout. Ce genre de truc là, exactement comme dans un Marseille-Bordeaux, quand Giresse était parti à Marseille et qu'il est revenu à Lescure, où Carnotror a descendu tout le match Giresse. Ce genre de truc arrivait dans le foot. Donc avec le regard de 40 ans plus tard, ouais, ça fait rigoler et tout, comme le dit Polo. Mais
non, mais là il y a 15 mètres d'élan.
Ce qui est ouf, c'est qu'il n'y a même pas coup franc. C'est là où tu te dis, mais monsieur Corvert, il délire ou quoi?
Mais pour ce qui est du carton rouge,
pour ce qui est de la méchanceté et tout, il y en avait sur les terrains à l'époque. Ouais. Franchement, il y avait des trucs de malade sur les terrains.
Non, mais c'est le coup franc qui est choquant. C'est le fait qu'il pose le ballon et que l'arbitre, il est à côté de Schumacher en attendant. C'est ça qui nous a marqué.
Il y a ça, il y a la violence du choc aussi. À l'époque, on en parlait quand même de tout ça.
Ça a
des proportions énormes.
Moi, tu me diras si c'est pas ce que vous avez ressenti. Moi, ce qui m'avait choqué, bon, j'étais que gamin, mais c'est de voir que Schumacher se désintéresse, ça c'est la violence, il se désintéresse de Battiston, il a posé le ballon en attendant le 6 mètres, et l'arbitre, il est à côté de lui et il attend aussi. C'est en vrai encore plus choquant que la faute.
Et je pense que ça a rajouté,
si Schumacher était allé le voir, ça va et tout machin et tout, il y aurait peut-être eu un truc différent.
Oui, au moins qu'il fasse au moins son faux cul, quoi.
Là, il y avait une froideur, mais qui était d'une.
Et parce que dans cette Coupe du Monde, je vous assure que ce que fait Gentile avec Maradona dans le Italie-Argentine, ce match-là, il est Ardiles terminé avec le maillot complètement déchiré, Maradona et le truc complètement dingue, c'est que Maradona termine avec le carton jaune, alors que Gentile ne prend même pas un carton jaune sur ce match-là. Ouais. Et dans le Argentine-Brésil, où les Brésiliens, les fameux poètes de 82, une des plus belles équipes de l'histoire, eh ben les Brésiliens, qu'est-ce qu'ils mettent à Maradona et qu'est-ce qui se passe? Maradona se venge, rentre pied en avant dans un Brésilien et il prend carton rouge. Ce qui était rarissime à l'époque.
Ouais, alors est-ce que c'est pas Battiston qui a fait faute? Voilà, Polo, c'est
non,
ça.
Le contexte il est bon à expliquer. Il y avait des matchs qui étaient des trucs de sauvage.
Mais moi, je vous suis. Mais moi, là où je vous suis pas, parce que j'ai lu des trucs aussi quand même, c'est de dire qu'à l'époque, c'est passé comme une lettre à la poste.
Non, je t'ai pas dit que c'était passé comme une lettre à la poste.
Je t'ai dit que ce qui a choqué aussi en Allemagne, c'est le fait qu'il n'y ait même pas eu coup franc.
Ah bah, en fait, c'est ça.
Mais l'action en elle-même, d'ailleurs, on ne sait toujours pas si Schumacher a fait ça pour taper Battiston ou si, comme lui l'explique, il ne savait pas s'il pouvait se faire lober, etc. Moi, je suis désolé. En Allemagne, je peux t'assurer que les journalistes, y compris les nouvelles générations, ne jugent pas le fait s'il y a faute directe volontaire. Le fait qu'il y ait faute, c'est une chose. Le fait, est-ce que c'est une action complètement volontaire pour flinguer Battiston, c'est beaucoup plus ouvert en Allemagne.
Jean-Louis, Battiston est rentré à la mi-temps à la place de qui?
À 50e, il remplace Gingy.
Justement, Roland, je voulais te parler de ça.
Oui, alors tu vas lui en parler dans un instant, mon cher Daniel, parce qu'on va revenir dans une seconde. Il y a encore plein de choses à faire sur le match.
Justement, sur les changements d'Hidalgo.
Ah bah, retiens ça et on pose la question dans un instant. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Team du gars.
Tout RMC en podcast.
En podcast. Sur l'appli RMC.
Bah alors, Daniel, on peut la faire maintenant, ta question, donc, sur le coaching d'Hidalgo. Ah, mais il est parti, Daniel. Là, il est parti manger son chocolat noir, fleur de sel. Je le sais.
Ah bon, fleur de sel?
Ah oui, je pense, oui.
D'accord.
Oui, je connais les produits chez les Rio.
C'est Lindt?
Lindt, je pense. Oui, je pense. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bah, en tout cas, t'as eu la question, coach.
Il y en a deux de changement.
Deux, oui, exactement. Bah, c'est Battiston Gengini. Ensuite, Christian Lopez va remplacer Battiston. Voilà.
Et c'est deux défenseurs, arrière-centraux ou latéral pour Battiston. Il pouvait jouer les deux. Qui rentre au milieu, alors que sur la touche, il y a des milieux, que ce soit Girard, Larios. Donc ça, ce sont des changements surprenants.
Mais Battiston, il n'était pas presque plus technique que Girard?
Girard, on se trompe beaucoup par rapport au fait à la réputation de mettre des pinceaux, mais on est dans la même génération. Je joue dans les équipes de jeunes avec lui. Je peux te dire que techniquement, il était pas mal du tout.
Hein. Oui. Oui, alors effectivement, c'est des changements plutôt défensifs. Voilà, c'est comme ça qu'on doit les interpréter à ce moment-là du match.
Défensifs.
Alors que tu as un peu la main, peut-être, non ? Sur les Allemands à ce moment-là.
On est un partout.
Oui, on est un partout, mais non, on n'a pas l'impression qu'on domine.
Moi, honnêtement, j'ai jamais l'impression qu'on ait vraiment la main.
Ok, même à 3-1.
Non, mais oui, dans le score. Ouais. Mais je sais pas, Polo, toi, comment tu le ressentais. Mais...
Quand même. Alors, moi, je me rappelle très bien. La première mi-temps, la première mi-temps, en fait, est très, très équilibrée, voire un léger plus pour l'Allemagne, parce que Paul Breitner fait un match super, un excellent match en tant que meneur de jeu. Ensuite, en deuxième mi-temps, j'ai le sentiment que la France prend l'avantage. Et évidemment, pendant les prolongations, la France est au-dessus.
Oui, prolongation, ouais, première prolongation, ouais. Oui. Alors on arrive justement à la prolongation dans une seconde. On continue de détailler ce France-Allemagne 82, la demi-finale de la Coupe du Monde, le drame de Séville,
là.
Etc.
Très bon, hein.
Allez, à tout de suite.
RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, bonjour Louis, on continue, 19h49, toujours dans le Team Dugas, nous continuons à parler de ce fameux match France-Allemagne.
Exactement, France-Allemagne 82, demi-finale de la Coupe du Monde, Daniel Riolo est là, Julien Cazard, Paulo Breitner, coach Courbis, donc...
Oh, là ça claque.
Il nous reste que quelques minutes
là,
malheureusement.
Là, je te le dis là.
Donc, un partout, prolongation.
Ah bon ?
Prolongation.
Ah, l'expression, j'adore.
Et la première période de la prolongation est magnifique pour les Français. Le but de Trésor, la reprise de volée, le but de Giresse.
C'est réaliste, hein, on n'y croit pas à ce qu'on voit. Magnifique.
À la prolongation, oui. Oui.
Ah, franchement, quand Trésor il met cette volée...
En
là,
plus, les buts sont magnifiques.
Moi, je me dis, mais ça vient d'où ?
Trésor, Thuram, Pavard, on est quand même le chic pour avoir un mec sorti de nulle part en défense qui met un but en demi-finale, quand même. Hein.
C'est vrai. Giresse, donc 98e, marque le
finale,
but.
C'est une titi.
À l'époque, Thierry Roland dit c'est bon, on est qualifié. Jean-Michel Larquet lui dit attendez, attendez un peu, Thierry, attendez.
Que j'ai pleuré.
Voilà.
C'est pas la France un pied en finale ? C'est pas ça, toi ?
Oui, oui, peut-être.
Non, c'est In the Pocket. Bah oui, mais... C'est In the Pocket, bah,
ça...
là. J'ai plus... Non, c'est In the Pocket.
Ça dire que la France a un pied en finale, c'est pas.
C'est
normal de le dire. De
sa vie, parfois. Sauf que Rummenigge est entré, effectivement. Ah. Et donc, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, il réduit l'écart à la 102e minute.
Et là encore, la défense est étourie dans la surface. Ouais.
Jean-Louis.
Oui, Polo.
Jean-Louis.
Oui.
Karl-Heinz, qu'est-ce que ça veut dire en français ?
Charles-Henri.
Parce que quand
Charles
j'étais
Jean.
Petit. Si.
Charles
quand
Ketchup,
j'étais petit,
moi, mais...
quand j'entendais Charles le mot Karl-Heinz, moi, je me planquais.
Moi aussi, hein.
Moi, je me planquais. Et quand j'ai appris que ça voulait dire Charles-Henri ou Charles-Henriot en vieux François, eh ben, c'est pas tout à fait la même chose.
Et pourquoi tu te planquais ?
Et parce que Karl-Heinz, j'avais peur.
Ah, d'accord.
Ouais, ça fait peur, Karl-Heinz.
C'est vrai qu'à l'époque.
Quand t'es gamin, quand t'as 8 ans, 10 ans, et que tu sais ce que représentent les Allemands.
Ça fait plus peur que Mesut Özil. Mesut Özil, t'as moins peur.
C'est vrai. Ou Horst.
Ah ouais.
Horst.
Non, excuse-moi. Parce
que Roubaix, c'était Hans-Peter Briegel. Ça foutait les jetons. Hans-Peter Briegel.
C'est décathlonien. Mais t'as Gigi Lamoroso d'un côté. Et un décathlonien de l'autre. C'est extraordinaire.
Briegel, c'est pas seulement son nom que ça foutait les jetons.
Moi, Horst, Roubaix, ça me fait peur. Je vous le redis quand même.
Roubaix qui est rentré aussi dans ce match.
Voilà, c'est pour ça. Exactement, la 73e. Donc, Rummenigge. Oui, ouais, tente.
Mais quand Rummenigge marque, je sais pas.
Là, vous vous dites c'est mort.
Moi, devant la télé, j'ai dit
Moi, là, je me dis plus rien, je transpire et j'ai peur. J'en suis pas à me dire des choses à ce moment-là.
Oui, parce que Fischer, donc,
on a fait une Thiago Silva.
Klaus Fischer. Ouais. Klaus Fischer, avec qui fait sa space.
Quel but il met quand même, hein, la remise de la tête.
C'est sa spécialité en plus.
Le retourné, il est un peu couché, il est un peu chelou quand même.
Ah, mais il est beau quand même. Et puis là encore, ce que fait Ettori et la défense sur
Ah oui. Mais Ettori, j'allais dire, va se rattraper dans la séance de tir au but. Pas du tout. Puisque on l'a tous en tête. Ettori qui.
Bah, il chope le premier quand même. Hein.
Oui.
C'est le troisième.
Non, mais c'est le premier qui rate. C'est,
oui.
C'est lui qui.
Ah oui, c'est vrai. À ce moment-là,
raté, il est allemand.
Oui,
t'as
raison.
Raté.
T'as raison. Donc, en fait,
avec Giresse Marc qui console le Stilicœur en lui montrant le penalty raté de Six, je crois.
Qu'on n'a pas vu à la télé. Six, on l'a pas vu à la télé.
Kaltz et Breitner marquent leur penalty. Giresse amoureuse côté français. Stilicœur rate le sien. Rocheteau marque. Donc, il y a 3-2 à ce moment-là. Normalement, souvent, tu pars bien comme ça.
En parlant d'amoureuse, t'as oublié, à moins que je l'ai pas entendu, mais quand même, la frappe sur la barre à la dernière minute.
Exactement.
Ah oui.
Non, je ne l'avais pas dit. Ensuite, Lidbarth qui marque, Didier Six rate, Rummenigge marque, Platini marque le sien, et ensuite Roubaix marque et donc
Six, tu sais ce qui lui tombe dessus, le pauvre Didier Six ?
Bah, dis-moi.
Il jouait en Allemagne.
Ah oui.
Dans ce match, il est passé pour le collabo.
Ah, mais c'est vrai que j'ai plus souvenir de
certains,
ça.
Certains avaient dit, c'était horrible hein, ce qui se disait à l'époque, mais on était vraiment le.
Bah, c'était.
Il y avait franchement ça, plein de gens ont écrit des bouquins sur le fait que ça ressemblait à la guerre, que évidemment il y a plein de choses qui sont remontées autour de ce match-là.
Est-ce qu'on peut expliquer le contexte politique de l'époque?
Bien sûr,
parce qu'on l'oublie complètement. En fait, évidemment, François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981 et il y a une chasse aux sorcières dans les médias à l'époque, faut pas l'oublier. Et donc vous avez une nouvelle génération de journalistes qui arrivent, évidemment de gauche, et eux sont beaucoup plus intéressés. Mais non, enfin, je suis très sérieux. Et eux, ces journalistes, ils sont en train de valoriser la RDA par rapport à la RFA, et y compris à la Fédération française, puisqu'on va faire des stages en RDA pour échanger. Et donc la RFA, c'est devenu le mal ultime de ces Allemands super riches, etc., symbolisé évidemment par la sélection allemande. Et ça ne m'étonne pas qu'on ait dit dans les journalistes, que moi j'avais été très choqué à l'époque, donc j'avais 10 ans, 11 ans, et je lisais beaucoup des choses comme ça, sur la façon violente dont on écrivait alors, sur l'équipe d'Allemagne de l'Ouest.
Polo, alors juste, moi je pense qu'il y a les journalistes, mais pour les gens, la RFA, c'était l'Allemagne, alors que l'RDA, il y avait un côté, c'est l'Union soviétique. Donc en fait, les vrais Allemands à détester, les Allemands de la guerre, c'était les Allemands de la RFA.
Oui. Bah, bien sûr,
oui, mais on n'arrêtait pas. Il y avait des articles partout qui sortaient, comme quoi les Allemands, avec leur BM et tout leur pognon, c'était l'histoire du miracle économique allemand, arrivaient forcément dans le sud de la France, et ceci et cela, avec leurs oiseaux, leurs Deutschmark, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et tu avais beaucoup de préjugés par rapport à ça. Et c'était beaucoup moins sur la RDA, évidemment. Et encore une fois, il y avait un contexte politique très important en 1981 qu'on a complètement oublié.
Heureusement,
Je ne vais pas citer un journaliste qui a eu un poste très important à l'Élysée à un moment, mais ce gars s'était excusé de ses articles quelques années après parce qu'il estimait qu'il consommait beaucoup trop de boulawen.
C'était très intéressant, Polo.
Je me souviens que ça lui est tombé dessus.
En ce qui concerne les pénalties. Pour ce qui est de
l'Allemagne, c'était Six.
Ah, c'est dit.
Oui, coach. Il nous reste plus qu'une minute, je vous le dis, avant de partir dans les grandes thèses.
Ettori, que j'ai eu le plaisir de jouer avec pendant, il reste quand même 5 ans à Monaco, il avait une astuce, ou plutôt, une stratégie, c'est que pour lui, un droitier, quand il tirait, ben, dans les stats et dans ses habitudes, c'était pas pied ouvert, c'était pied fermé.
Il croisait.
Donc, et il attend chaque fois que le droitier croise. Sauf Stiliqué.
C'est lui qui sort.
Qui ferme et c'est celui qui l'arrête.
On n'a plus le temps pour le reste, messieurs. C'était passionnant.
Il n'y avait pas faute.
Faute de Battiston sur Schumacher.
Et Roubaix nous a tués.
Chaque victoire n'est pas un gain. Chaque victoire n'est pas un gain. C'est la grande leçon allemande de ce match-là. C'est-à-dire, pour la première fois, les Allemands ont compris que le plus important, c'est pas de gagner, c'est d'avoir l'esprit du jeu. C'est un truc qu'on a complètement oublié.
Surtout que ce jour-là, ils avaient fait match nul.
En plus, c'est vrai. Et la France n'a pas perdu. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir alors. Merci tout le monde. Merci Polo, coach Corbis, Daniel Riolo, Julien Cazard. Demain, Team Dugas revient à 18h. Le foot, c'est à 22h également avec l'after. Et dans un instant, c'est par ici la sortie sur RMC.
RMC. 18h-20h. Team Dugas.